Oui, prions encore. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction, ta grâce, ta bonté, ta fidélité sur nous, alors que nous sommes réunis en ton nom et pour recevoir ta parole et pour t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous rappeler ce que tu as fait pour nous et te servir en esprit. Seigneur, gloire et louange à ton nom. Bénis ces instants, bénis ta parole, qu'elle nous rejoigne au plus profond de nous, nous instruise, nous édifie ensemble en toi, Seigneur notre Dieu. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Alors nous sommes le dimanche de la Pentecôte, et la Pentecôte, eh bien, c'est une nouvelle relation qui s'établit, une relation par le Saint-Esprit. Alors, c'est dans le livre des Actes, bien sûr, je lirai seulement chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, Pentecôte. Comment êtes-vous en relation chrétienne ? Pentecôte est la réponse. Puisque nous voyons d'abord un groupe de disciples qui est dans l'attente. Nous voyons la situation, donc au chapitre 1, versets 12 à 15. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Maintenant, ils sont séparés de Jésus. Et ils n'ont pas plus que la distance d'un chemin de sabbat à faire pour se retrouver dans la méditation et la prière. Il est curieux cette mention près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire la distance que l'on pouvait parcourir le jour du sabbat. Puisque c'était le jour où l'on devait se reposer, on ne devait pas travailler. Et les voilà qui font ce chemin vers Jérusalem, juste un chemin de sabbat. Et après ce chemin de sabbat, eh bien, ils se retrouvent dans le lieu de prière. Et ils sont là dans la méditation et dans la prière, comme Jésus leur a recommandé. Les versets 4 et 5, comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'était le lieu où ils se tenaient d'ordinaire, où ils se sont retrouvés, la chambre haute, donc ils sont montés à l'étage, hein, puisqu'ils montèrent dans la chambre haute. Et ils se sont retrouvés dans cette chambre où ils avaient vécu tant de moments particuliers depuis la Pâque, certainement l'endroit où ils avaient célébré la Pâque avec le Seigneur, où le Seigneur les avait instruits, où ensuite il leur était apparu après sa résurrection, où il était venu vers eux. Et ils ont retrouvé cette chambre, mais il fallait que quelque chose de nouveau se produise dans cette chambre. Quelque chose qui allait vraiment bouleverser leur vie. Alors ils étaient là, tous les témoins de l'évangile sont là. Les apôtres, les femmes, Marie, et ceux que le Seigneur a fini par convaincre, c'est-à-dire les frères de Jésus. Ils sont précisés ici, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas tout simplement parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 5, nous voyons que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. À ce moment de début du ministère de Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Mais le Seigneur les a gagnés. Certainement, par sa mort et sa résurrection, là, ils ont été acquis, ils ont compris celui qui était leur frère, mais comment il dépassait la simple relation de frère humain. Et maintenant, les voilà qui sont dans l'attente avec les autres. Nous avons donc là les amis de Jésus, les apôtres, puisque Jésus a dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Nous avons là les soutiens de Jésus, puisque ces femmes, elles ne faisaient pas que suivre Jésus. Nous voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc ces femmes n'ont pas fait que suivre Jésus, elles l'ont assisté. Donc c'était en quelque sorte la communauté d'amour qui entourait Jésus lors de son ministère et qui se retrouvait là aussi. Et puis, il y avait sa famille naturelle, Marie, sa mère et ses frères. Et tous sont là réunis, tous sont là au même titre, dans la même attente de l'œuvre nouvelle de Jésus. Ils sont d'accord ensemble, tous d'un commun accord persévéré dans la prière. Ils sont d'accord pourquoi ? Ben pour ne plus douter de la parole de Dieu, la parole du Maître qui leur dit « Attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit ». Là, ils ne sont plus dans l'expectative, ils sont d'accord, ils attendent ce moment qui est promis. Ils sont d'accord pour être dans la volonté de Dieu, ils sont disponibles pour les temps nouveaux, ces temps qu'ils savent être extraordinaires, mais ils ont été avertis également qu'ils seront aussi des temps si difficiles, si dérangeants. Pour eux, car à partir du moment où ils seront visités et où ils seront les témoins de Jésus, ils savent que leur vie ne sera plus jamais tranquille. Ce ne sera plus la vie de ce monde où l'on fait un peu comme on veut, selon au gré des circonstances. Là, ils seront disponibles pour être les témoins de Jésus ressuscité. En fait, ils ont écoutez le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont là réunis ont déjà écouté le Saint-Esprit, puisque il est dit que j'ai parlé donc de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a parlé. Ce Saint-Esprit, tous ceux qui sont réunis le jour de la Pentecôte l'ont déjà écouté. Ils sont disponibles pour son œuvre. Au verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Probablement aussi le jour de la Pentecôte. Tous étaient-ils à l'ascension ? Certains ont probablement rejoint le premier cercle des apôtres pour attendre avec eux la manifestation promise. Quoi qu'il en soit, beaucoup sont restés anonymes. Leurs noms n'ont pas percé dans l'histoire. Sur les 120, nous en connaissons combien ? 12, oui. Marie, 13. Les frères de Jésus, allez, 15, 20. Mais ils vont vivre le même événement. Ils vont être au bénéfice de la même promesse. Ils vont recevoir la même plénitude. Dieu ne fait pas exception de personne. Pierre affirmera juste après, lors de sa première prédication, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc voilà tous ceux qui sont là, dans cette chambre haute, à attendre fermement l'accomplissement de la promesse de Jésus. Pour que leur vie ordinaire, leur vie de disciple, leur vie de famille, soit transformée, visitée par la présence du Saint-Esprit. Quel que soit le type de relation qu'ils ont entre eux, ils sont tous maintenant dépendants de cette visitation. Ils vont entrer dans une autre dimension, dans une autre relation par l'Esprit qui a été promis. Et pour nous, eh bien, nous pouvons dire que nous sommes aussi réunis toujours dans le même lieu, régulièrement, avec des types de relations différents, en étant plus ou moins en vue, plus ou moins connu. Quand on fait référence à une communauté, bon, normalement le pasteur est quand même un peu connu, mais les membres de la communauté ne sont pas forcément connus des autres, des autorités ou bien des autres églises. Et alors ? Et alors ? Nous bénéficions tous de la même œuvre, du même Seigneur, et nous sommes tous dans l'attente de ces moments où le Seigneur peut aussi nous visiter par le même esprit et faire une œuvre plus complète au milieu de nous et en nous par le même esprit. Et il n'y a personne d'exclu de cette œuvre dès l'instant où nous sommes décidés à aimer Jésus, à soutenir son œuvre, comme le faisaient ses femmes, à aimer Jésus comme le faisaient ses apôtres, à être proche de lui comme l'étaient les membres de sa famille. Si nous sommes dans ces dispositions, le Seigneur peut encore accomplir au milieu de nous une œuvre particulière par son Saint-Esprit. Alors l'événement, le jour de la Pentecôte, quand on lit bien, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent un peu impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Voilà l'événement, le bruit du vent dans la maison. Ce n'est pas le vent lui-même, c'est le bruit du vent. Un tumulte qui se produit, mais un tumulte sans dégâts. En fait, le souffle, mais ils l'ont déjà reçu, puisqu'il est écrit dans Jean chapitre 20, verset 22, que Jésus a soufflé sur ses apôtres en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et ici, maintenant, il y a la manifestation de la puissance à travers ce bruit du vent. Bruit dans la maison, mais qui s'entend de loin, puisque au bruit, beaucoup sont accourus, au bruit qui eut lieu. Bruit qui vient du ciel, non pas de la terre. Bruit qui vient du ciel, le Saint-Esprit vient du ciel pour donner la vie. La vie vient toujours du ciel, du cœur de Dieu lui-même. Ce bruit vient du ciel. D'ailleurs, il était certainement bruit avant d'entrer dans la maison, probablement déjà entendu dans la ville dès son origine. Mais il a une destination. Ce bruit ne se répand pas dans la ville. Ce bruit, on pénètre en quelque sorte dans la maison. C'est vraiment la présence de Dieu au sein de la maison. Où sont réunis donc les disciples. Et ce bruit ne vient pas seul, il est accompagné par des langues de feu. De ce bruit qui est partout émane du feu. Des langues de feu physiquement visibles et à chacun sa langue. Très important puisque apparurent des langues de feu séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. À chacun sa langue, par le même esprit. C'est le même esprit qui donne à chacun une langue pour être sûr, pour se poser sur le disciple. Et à chacun sa langue, pour chacun son langage, puisque les personnes vont maintenant les entendre chacun dans leur propre langue. Chacun va s'exprimer selon ce que l'Esprit lui donne. C'est l'inverse de Babel. Vous savez que l'humanité n'avait qu'une seule langue, et lorsqu'elle s'est décidée de bâtir cette tour pour se donner un nom qui va jusqu'au ciel, eh bien Dieu a confondu l'humanité, a confondu les langages et les a dispersés sur la face de la terre. Et ici les langues, elles font l'inverse, elles ne sont pas là pour confondre et diviser, mais au contraire pour atteindre ceux qui sont dispersés. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, nous tous qui venons de tous horizons, puisque au jour de la Pentecôte étaient réunis à Jérusalem pour l'adoration, puisque la Pentecôte était une fête de calendrier d'Israël, une fête très importante qui annonçait cette œuvre du Saint-Esprit pour toutes les nations. Et nous le trouvons dans le Lévitique au chapitre 23, dans toute la liste des fêtes d'Israël. Donc, atteindre ceux qui sont dispersés maintenant, les réunir dans un même amour et dans un même langage, qui est celui de la grâce de Dieu. À l'inverse de Babel, où un édifice a été arrêté dans sa construction, à l'inverse de Babel, un édifice spirituel est inauguré. Ce jour-là, l'Église, pour unir les enfants de Dieu, dans son service. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Nous lisons. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et puis nous pouvons prendre également Éphésiens au chapitre 2, versets 22. 21 et 22, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc ce jour-là, le jour de la Pentecôte, eh bien, c'est le commencement de l'édification de l'Église où Dieu va ajouter pierre après pierre à ce temple spirituel pour être adoré et servi au cœur même de l'humanité, puisque c'est le but de l'Église, c'est d'être un temple où le Seigneur, par son Saint-Esprit, permet la véritable adoration. Et donc, à l'inverse de Babel, ce n'est pas le nom des hommes qui est exalté, mais le nom de Dieu. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Voilà ce qui se produit ce jour-là. Et donc le résultat, eh bien, c'est que le Saint-Esprit est répandu donc par celui qui en a fait la promesse. Jésus a été fidèle. Chapitre 2, le verset donc 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit a été répandu par Jésus, il en avait fait la promesse, il a le pouvoir, il l'a fait. La tête commence à s'occuper des membres du corps. Hein, toujours dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et puis, nous pouvons prendre aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Parole que vous connaissez bien, du moins je l'espère. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps forment malgré leur nombre un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui s'édifie, c'est un corps qui reçoit la vie et qui se forme le corps de Christ dont chaque chrétien devient membre par sa conversion et par la visitation du Saint-Esprit. Qu'ils aient reçu ensemble le Saint-Esprit montre bien sûr qu'ils forment désormais un seul corps. Cet événement les unit pour toujours et unira tous ceux qui seront visités au cours des siècles et sur tous les continents, unira tous en un seul corps, le corps de Jésus. Désormais, ils seront en relation, non plus par des caractéristiques humaines, non plus par des proximités humaines, mais ils seront en relation par le Saint-Esprit qui les unit et qui les unit ensemble à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permettra bien sûr qu'ils prêchent, C'est le Saint-Esprit qui leur fera faire les miracles. C'est par le Saint-Esprit qu'ils s'édifieront, qu'ils se construiront. Dans les Actes, toujours au chapitre 9, verset 31, nous avons cette belle description. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église, qui permet de cette Église s'accroisse et se forme véritablement comme corps de Jésus. C'est par le Saint-Esprit qu'ils s'aimeront, comme étant engendrés du même Père, puisque l'apôtre Jean peut nous dire que quiconque donc a reçu la foi au Seigneur, donc quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc nous nous aimons les uns les autres parce que nous sommes nés du même Père, par l'Esprit qui nous a visités. C'est par l'Esprit qu'ils s'aimeront, et cet Esprit qui les unit à Dieu, qui fait d'eux des enfants de Dieu et qui les unit ensemble, ils sont aussi appelés à l'aimer, le respecter, favoriser son œuvre. Et là, je voudrais vous lire dans l'Épître aux Éphésiens, toujours d'ailleurs l'Épître aux Éphésiens, vous avez remarqué que j'y reviens assez souvent dans ce message, c'est une épître sur l'Église du Seigneur. Et voyons que chapitre 4, verset 3, même, je prends à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a, à partir du moment où le Seigneur nous a accordé cette grâce d'être unis par son Saint-Esprit, il y a de notre part une responsabilité de conserver cette unité de l'Esprit, de favoriser cette unité en étant dans la douceur, dans le respect, dans la patience, dans le support mutuel, en eux, n'employant pas un langage inadapté. Lorsque, chapitre 5, par exemple, au chapitre 5, verset 3, « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Et puis, au verset de chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous sommes, vous êtes, chacun d'entre vous, responsable de permettre à cet esprit qui fait de vous un seul corps, à cet esprit qui vous unit, à cet esprit qui vous met en relation avec Dieu et les uns avec les autres, vous êtes désormais responsable de favoriser sa présence, favoriser par une bonne attitude envers vos frères et sœurs, et favoriser également par la recherche du véritable ministère, le ministère de l'Esprit, comme au chapitre 4 il est dit, au verset 11, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous perfectionnons ensemble la foi en Christ, l'Esprit qui nous unit. L'unité d'esprit implique une unité de foi et un travail ensemble sur cette foi au Seigneur Jésus. Nous, oui, 1 Corinthiens 12, toujours, chapitre, versets 4 et à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Alors, frères et sœurs, pour conclure ce message, le résumé, je dirais que nous sommes appelés, vous êtes appelés à entretenir vos relations par le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui est à l'origine de votre unité, qui est à l'origine de votre connaissance mutuelle, entretenez vos relations par le Saint-Esprit. Toutes les bonnes relations humaines ne doivent pas se substituer à vos relations par le Saint-Esprit. Les relations humaines que nous avons et qui doivent être entretenues, comme je l'ai dit, ne sont pas à l'origine de notre unité. C'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de notre unité. C'est lui qui fait de nous un seul corps. Et donc, ce que nous devons rechercher dans nos bonnes relations mutuelles, c'est que le Saint-Esprit continue de faire son œuvre et continue de nous unir, continue de nous exhorter mutuellement, continue de nous édifier les uns par les autres. Que le Saint-Esprit ait le libre accès et la libre circulation entre nous. Voilà les relations que le Seigneur veut que nous établissions, que ce soit des relations véritablement spirituelles, chrétiennes, et de ce fait fraternel. Par conséquence, mais la source, c'est le Saint-Esprit. Et par ailleurs, ne permettez pas aux mauvaises relations de contrarier celles qui sont données par le Saint-Esprit, d'arrêter la relation spirituelle, de la freiner ou carrément de la contrarier. Tout doit être fait pour que l'Esprit qui a été donné pour faire de nous un seul corps en Christ puisse continuer son œuvre et ainsi nous mettre ensemble, non pas seulement en relation entre nous, mais toujours ensemble en relation avec Dieu. Alors là, l'œuvre pourra encore se développer. Et puis, même au niveau de l'organisation de la vie de l'Église, elle ne doit pas remplacer les ministères et les opérations de l'Esprit. C'est toujours par le Saint-Esprit que nous devons demander les capacités de nous organiser, d'établir les différents ministères pour qu'ils soient exercés sous l'onction de l'Esprit et non pas par simple intelligence ou sagesse humaine. L'intelligence, la sagesse, les bonnes relations, tout cela est dans le cadre de la vie de l'Église, mais le fondement, ce qui est le cœur, la force, la vie entre nous, dans nos cœurs et entre nous, c'est l'action du Saint-Esprit de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Voilà là où nous devons focaliser nos relations. Seigneur, unis-nous par l'Esprit. Seigneur, édifie-nous par l'Esprit. Seigneur, fais-nous grandir ensemble et qu'alors soit rendu à Dieu le culte qui lui est dû, le culte à tout à son honneur, parce que c'est de lui que viennent toutes choses et c'est pour lui que nous sommes. Amen.